Voilà, on va laisser continuer, Jonathan, en te remerciant.
Merci beaucoup, Nathanaël. Alors, on avance dans le texte et on continue on continue la suite de ce texte. On voit donc, on a un principe général qui nous est donné, se soumettre aux autorités qui nous gouvernent. On a cinq raisons que Paul invoque pour nous prouver que c'est important et nous motiver à effectivement nous soumettre. On l'a dit tout à l'heure, la soumission n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui se trouve au sein même de la Trinité. On a noté aussi que l'État n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est quelque chose que Dieu a prévu dès le départ, hein, dès Genèse 1. On a vu que c'était quelque sorte encapsulé dans le commandement de dominer toute la création, cette nécessité qu'il y ait des structures sociales et des relations de soumission et de subordination par rapport à des autorités. Ça, c'est le principe général. Maintenant, Paul continue avec, en quelque sorte, une mise en application. C'est intéressant parce que c'est comme si il faisait une petite prédication. Il commence par un peu un titre, et puis enfin, le titre, c'est « Soumettez-vous aux autorités qui vous gouvernent ». Et puis ensuite, il démontre ce point-là. Et puis ensuite, c'est comme s'il veut l'illustrer ou montrer comment on est censé appliquer cela. Donc voilà, il pose la question, hein. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Et là, il va nous montrer, voilà ce que tu dois faire pour ne pas avoir à craindre l'autorité. Premièrement, fais le bien et tu auras son approbation. Alors évidemment, on est dans le cas un petit peu, entre guillemets, d'une autorité idéale ou idéalisée, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on fait le bien et on n'a pas l'approbation de l'autorité, ou parfois, on peut faire le bien et même au contraire, hein, être mis à mal parce qu'on faisait le bien. Voilà, j'ai entendu des témoignages de chrétiens dans certains pays d'Amérique du Sud, voilà, qui voulaient dénoncer parfois la corruption de leur État et du coup qui se faisaient plutôt qui se faisaient entraver parce qu'ils avaient fait cela. Donc c'est pas toujours le cas, mais là on a une sorte d'autorité présentée qui est idéalisée, mais c'est vrai quand même que de manière générale, l'autorité devrait promouvoir le bien. Et dans beaucoup de pays, c'est quand même le cas. L'autorité promeut le bien, peut-être pas dans toutes ses facettes, mais elle promeut le bien, en tout cas dans certains aspects. Et puis là, il donne une justification. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alors, je ne sais pas quelle était la question qui avait été posée par rapport à cela, mais effectivement, le magistrat, tous les responsables sont serviteurs de Dieu. Donc, ils sont on pourrait aussi traduire, hein, des ministres de Dieu. Ils servent Dieu en gérant la nation pour notre bien. On pourrait dire, là, c'est presque une définition du rôle de magistrat ou de personne en responsabilité au sein d'un État. Quel est son rôle? C'est de servir Dieu pour le bien du peuple. Alors bien sûr, la plupart de nos dirigeants s'en fichent pas mal du fait que la Bible définisse les choses ainsi, mais malgré tout, la Bible définit les choses ainsi et je crois que ça doit nous faire réfléchir, en particulier en tant que citoyens, au moment de voter, par exemple, pour un candidat. On doit se poser la question et on sait bien qu'on On n'a pas de candidat idéal. En général, on a des fois un petit peu l'impression qu'on doit voter entre le moins pire de deux candidats. Mais le critère, ici, ça nous donne une espèce de critère pour lequel on devrait voter. Ben, bibliquement, on devrait voter pour celui qui nous semble le plus œuvrer pour le bien de la nation. Ce critère du bien qui est essentiel. Alors, c'est vrai que c'est très remis en question aujourd'hui parce que on relativise le bien et le mal. C'est plus vraiment des catégories qui existent dans notre culture. Mais malgré tout, je crois que ça devrait être notre réflexion. Lequel des candidats promeut le bien? Alors, je sais que c'est pas évident parce que le bien et le mal ont beaucoup de facettes. Est-ce que je dois choisir entre celui qui veut la prospérité économique, par exemple, ou prendre soin des plus vulnérables? Bon, c'est deux aspects du bien, peut-être, entre lesquels on doit trancher. Et voilà, souvent, c'est des débats qui sont presque impossibles à résoudre, mais malgré tout, ça devrait être notre critère de choix. Et puis ensuite, on a l'illustration, mais par la négative. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Et puis de nouveau, la justification de ce point. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Et ici, par porte l'épée, c'est vraiment cette idée qu'il a reçu l'autorisation, enfin, ou l'autorité de mettre en place des jugements et des sentences. Puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère, donc la colère de Dieu, en punissant celui qui fait le mal. Donc non seulement le magistrat, il est serviteur de Dieu, mais en plus Dieu utilise ce serviteur pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Donc effectivement, le magistrat est un serviteur de Dieu. Et souvent, Dieu se sert du magistrat pour canaliser le mal. Et c'est une réalité, hein. On a parlé tout à l'heure de la chute. Le mal voilà, prospère dans notre monde, mais force est de constater que le mal prospère moins vite qu'il ne le pourrait. Je pense que voilà, on se rend bien compte que dans un monde qui serait juste un monde anarchique, le mal prospérerait beaucoup plus vite qu'il ne le fait dans notre monde. Alors bien sûr, le mal est là, le mal prospère à plein de points de vue, mais malgré tout, c'est comme si Dieu avait un petit peu endigué, il avait mis des rampes de sécurité pour permettre à l'humanité de continuer de vivre malgré le mal, et y compris voilà, dans des périodes de guerre, dans des périodes d'extrême tension géopolitique, on se rend compte que les structures d'État permettent de minimiser, de réduire quand même les effets du mal. Et puis, j'ai dit que ça ressemblait un petit peu à une prédication, hein, donc on a un principe de base, que chacun se soumette aux autorités, on a l'application. Comment ça se fait? Ben, il faut faire le bien et il ne faut pas faire le mal. Et puis, finalement, Paul termine avec une espèce de conclusion où il va un petit peu nouer la gerbe et puis dire, voilà ce qu'il faut comprendre. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités. Et là, il précise, non seulement à cause de cette colère, donc la colère de Dieu passant par le magistrat, mais encore par motif de conscience. Donc, ce n'est pas juste la crainte du bâton ou la crainte de l'épée qui doit nous motiver à obéir. C'est le cas, et c'est vrai. Enfin, voilà, on a tous peur de prendre une amende, et c'est pour ça que on réduit sa vitesse quand on roule en voiture. Donc ça, c'est légitime. Mais encore plus par motif de conscience. Je crois qu'on devrait être, voilà, dans la mesure du possible, des citoyens exemplaires, même quand personne ne nous voit. Pourquoi? Parce qu'on est soumis à Dieu en étant soumis à l'État. Maintenant, il faut prendre un peu de recul et se demander, OK, qu'est-ce qui sort de ce texte? C'est quoi les principes qui sortent de ce texte? Bon, c'est assez facile, hein? Le principe général de ce texte particulier, c'est qu'on doit être soumis aux autorités. Maintenant, il y a une clause d'exception. Et parce qu'en fait, cette clause d'exception, elle vient presque dans ce texte lui-même. On va y revenir. Mais j'aimerais juste vous lire un verset qu'on cite souvent quand on parle du rapport aux autorités dans Actes chapitre 4, les versets 18 à 20. Il y a des apôtres qui ont été, voilà, qui sont interrogés et on leur demande d'arrêter de faire voilà d'enseigner ce que Christ enseignait. Et à un moment donné, dans l'interrogatoire, les autorités, donc c'est acte 4, je vais lire à partir de 4 verset 18, alors ils, c'est-à-dire les autorités, les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Donc on a une espèce de clause d'exception ici qui consiste à dire que on doit obéir aux autorités pour autant qu'elles ne nous demandent pas de désobéir à Dieu. Parce qu'ici, les autorités leur demandent d'arrêter d'enseigner ce que Jésus leur a enseigné. Et eux, ils disent, bah non, on doit obéir à Dieu. Mais en réalité, quand on regarde le texte en détail, on doit reconnaître que cette clause d'exception, elle se trouve aussi ici en Romains 13. On relit le principe que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Ça signifie qu'il y a plusieurs autorités, plusieurs degrés d'autorité, et nécessairement, on doit accorder davantage d'obéissance à une autorité supérieure par rapport à une autorité inférieure. Si notre prof à l'université nous demande de faire quelque chose, mais que par ailleurs, enfin voilà, je sais pas, notre président nous demande de faire autre chose, on a le devoir d'obéir à l'autorité qui est la plus importante. Et en fait, parmi les autorités qui nous gouvernent, celle qui les domine toutes, c'est Dieu lui-même, puisque toute autorité vient de Dieu. Donc en fait, toutes les autorités sont déléguées. Et ça signifie que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, ça signifie premièrement obéir à Dieu. Et ça signifie que si une autorité inférieure nous demande de désobéir à Dieu, il est nécessaire, il est légitime de désobéir aux autorités, y compris avec ce texte-là. Et je pense qu'il y a là des sphères, et j'aimerais juste en dire un mot, il y a des sphères assez clair où nos gouvernements voilà, tentent de parfois nous imposer voilà, des choses qui sont contraires à ce que la Bible enseigne. Je pense que dans quelques domaines de l'éthique en particulier, nos autorités, alors je sais que ce n'est pas le cas partout, hein, et peut-être ce n'est pas le cas dans votre pays, mais c'est le cas, moi, là où je vis, en Suisse. On a par exemple voilà, un devoir d'accepter comme équivalent le mariage homosexuel et le mariage hétérosexuel. Voilà, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement de la Bible et c'est quelque chose avec lequel on doit être en désaccord. Voilà, nos autorités nous impose aussi, par exemple, de considérer que l'avortement est quelque chose qui est possible, alors que ça va à l'encontre de l'enseignement de la Bible, qui nous place voilà, le début de la vie à partir du moment de la conception. Et du coup, l'avortement est quelque chose qui n'est pas conforme à l'enseignement de la Bible. Et par conséquent, je crois que sur ces points-là, on doit marquer notre désaccord. Mais attention, un désaccord signifie pas qu'on doit tout balayer. Je crois qu'on doit en fait se soumettre aux autorités humaines qui nous gouvernent autant que possible. Ça signifie que dans tous les domaines où on peut se soumettre aux autorités humaines, on doit le faire. Et puis s'il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas, eh bien là, on va pas le faire. Et là, peut-être même qu'on va le dire, qu'on est en désaccord avec ces choses-là, si tant est qu'on peut le faire, parce que parfois, on peut pas le faire. Et bien souvent, on n'est pas vraiment écouté de toutes les façons. Mais malgré tout, je crois qu'il y a voilà, une clause d'exception. Et c'est vrai que parfois, on peut être tenté d'utiliser un texte comme ça en disant, ah, mais moi, de toute façon, je vais obéir aux autorités parce que comme ça, je vais me faire bien voir. Et puis, on va utiliser le prétexte de dire, mais en fait, je vais obéir à Paul et à l'Épître aux Romains. Mais je crois que derrière ce commandement, il faut être aussi vigilant. On doit obéir autant que nos autorités nous permettent d'obéir à Dieu. Parce qu'on doit obéir à Dieu, premièrement. J'ai dit tout à l'heure, hein, je trouve que c'est un bon exemple, les protestants du 17e, du 16e et du 17e siècle, de voir comment eux, ils interagissaient avec leurs propres autorités qui les persécutaient durement. Et je voulais simplement mentionner, ça c'est Jean Calvin, quand il écrit L'institution de la religion chrétienne, donc c'est son livre le plus connu et c'est son chef-d'œuvre, hein. Il la dédicace, en fait, en tout cas une des versions, une des versions qu'il a faites de l'institution, il la dédicace au roi de France. Et alors lui, il était exilé parce qu'il n'avait plus le droit de rester en France à un moment donné. Il était donc il était à Genève. Et puis, il écrit, donc il envoie une copie au roi de France. Et il écrit ceci, au roi de France très chrétien, François Ier de son nom, son prince et son souverain seigneur, Jean Calvin, paix et salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ensuite, il va expliquer pourquoi il lui transmet ça. En fait, il veut lui expliquer en fait les doctrines des protestants pour que ce roi puisse se faire une idée par lui-même de quelles sont ces doctrines et puis pour qu'il puisse juger si vraiment c'est des faux enseignements ou si en fait c'est la vérité. Et puis à la fin, il termine sa dédicace. Après, il va y avoir le texte lui-même de l'institution, mais il termine sa dédicace en disant que le Seigneur, donc là, il parle de Dieu, hein, que le Seigneur, le roi des rois, veuille affermir votre trône en justice et votre règne en équité de Bâle le 1er jour d'août 1535, Jean Calvin. Et je trouve c'est beau de voir cet homme qui était en désaccord fondamental avec le roi, puisqu'il était protestant, donc par définition, il était en désaccord, mais pourtant manifestait une vraie soumission à ce roi, un vrai désir en fait de se concilier. Je trouve qu'on a là un bon exemple par rapport à ça. On passe au deuxième sujet, qui va aller assez vite, et ensuite on fera juste quelques applications finales. Donc je vais juste lire les deux derniers versets par rapport aux impôts. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et là, de nouveau, j'ai essayé un petit peu de réorganiser le texte pour bien qu'on le voie. Donc il y a de nouveau un principe d'ensemble, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts et la raison qui en est donnée, comme un petit peu sur le modèle de ce qu'on a vu tout à l'heure, car les magistrats sont ces serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Donc ici, il faut comprendre que l'impôt sert à payer ces magistrats qui gèrent la nation. Et c'est vrai qu'on peut être tenté de dire que la nation est corrompue et que, en fait, finalement, c'est Satan qui pilote tout ça. Mais il ne faut pas oublier beaucoup de bonnes choses qui viennent de nos nations. Alors, bien sûr, ça dépend un petit peu des pays où on se trouve et les bonnes choses peuvent être plus ou moins grandes. Mais quand on y réfléchit, on a en général un système de communication, un système de route, on a des systèmes scolaires, on a un système de sécurité. Toutes les choses qu'on serait bien incapable de financer ou d'organiser par nous-mêmes. Et on a besoin de la société et d'une certaine organisation de la société pour rendre toutes ces choses possibles. Et du coup, c'est vrai que c'est légitime que les magistrats, en tant que serviteurs de Dieu, même à leur insu, puissent être rémunérés pour cette fonction-là. Même si parfois, eux-mêmes, ils ne vont pas en être conscients. Et même si parfois, eux, en tant que personnes, ils sont tellement opposé à Dieu, mais comme on l'a dit tout à l'heure, même Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor était finalement un serviteur de Dieu sans le savoir, mais malgré tout, il l'était. Ou on peut penser à d'autres personnages de la Bible qui voilà, ont parfois fait du mal aux chrétiens et pourtant étaient des serviteurs de Dieu à leur insu. Et puis ensuite, il détaille de nouveau, il va aller comme dans l'application, un petit peu comme on l'avait vu tout à l'heure, rendre à chacun ce qui lui est dû. Et puis là, il va parler de quatre choses qu'on peut rendre, hein, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça nous fait un petit peu penser à l'enseignement de Jésus lui-même et on peut imaginer que, voilà, au moment où voilà l'épître aux Romains a été écrite, on ne sait pas très bien. Probablement que Marc avait pas, l'évangile selon Marc était peut-être pas encore rédigé, ou en tout cas pas encore dans sa forme finale. Mais on peut imaginer que déjà les enseignements de Jésus circulaient et qu'ils étaient connus, parce qu'il y a une espèce de résonance avec ce texte de Marc 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses pas, que tu te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tendez-vous à un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda: De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Donc on voit que c'est le même principe qui est repris ici, un petit peu développé par Paul. Qu'il faut, voilà, payer des impôts, c'est une bonne chose parce qu'on veut vivre dans des États qui fonctionnent bien et on veut reconnaître que ces magistrats, ils sont des serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y a voilà, il y a sans doute des cas limites à cela. Il y a des cas qui sont pas si simples. Qu'est-ce que l'État fait avec l'argent qu'on lui donne et tout ça, on peut le questionner, mais malgré tout, le principe général qui nous est donné ici est le suivant. On doit honorer nos autorités et on doit leur payer ce qui leur est dû. Alors j'aimerais juste venir à quelques applications, parce que ce texte, il n'est pas très difficile à comprendre. C'est vrai qu'il y a voilà, quelques éléments où on se dit, bon, qu'est-ce que ceci ou cela signifie? Mais dans l'ensemble, on comprend bien ce que Paul dit. Mais alors, comment on l'applique? Et je pense que c'est là le point essentiel, parce que si c'est facile à comprendre, c'est quand même assez difficile à vivre. Alors, quelques applications pour terminer. J'en ai sept. Et comme j'ai dit tout à l'heure pendant le temps de questions, je vais vous donner mon point de vue sur comment on devrait vivre les relations à l'État, sachant que ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Et il y a différents courants au sein du christianisme évangélique par rapport à ça. J'espère que ma position, elle est équilibrée, mais sachez que voilà, je reconnais que ce n'est pas la seule position et je respecte ceux qui auraient d'autres positions. Donc voilà les sept éléments d'application que j'aimerais retenir de ces sept versets. Premièrement, c'est Dieu qui met en place l'autorité. Ça, c'est absolument clair. C'est Dieu qui a mis en place l'autorité au travers des siècles. C'est intéressant de voir, par exemple, on a l'Empire babylonien qui est complètement fou et qui va déporter. Et puis, de manière inattendue, en fait, quelques temps après... Cet empire babylonien, il semble invincible, on a l'impression qu'il est plus fort que tout. Et puis, malgré tout, quelques temps après, on a les Mèdes et les Perses qui vont en fait prendre le dessus et qui vont dominer, et qui vont envahir l'empire babylonien et qui vont être beaucoup plus, qui vont être beaucoup plus sympas avec les Juifs en particulier, qui vont permettre aux Juifs de rentrer à Jérusalem avec Esdras, Néhémie, et de reconstruire le temple, de reconstruire la muraille, etc. Donc on voit que c'est vraiment Dieu qui gère tout l'échiquier géopolitique du monde. Et il faut faire un petit peu attention d'essayer de l'interpréter, parce que souvent on ne sait pas très bien. Alors peut-être que quelques siècles après, on arrive un peu mieux, mais quand on est dedans, c'est très difficile d'interpréter ces choses-là. Et au contraire, je crois qu'on devrait simplement, avec humilité, faire confiance à Dieu qui met en place ceux qui sont en autorité, y compris quand les autorités sont injustes et dures. Voilà, c'est lui qui les met en place. Deuxième remarque, je crois, pas forcément avec ce texte-là uniquement, mais aussi de manière générale, je crois que l'Église ne devrait pas dominer l'État parce que ça pose problème, ça mène à la confusion. J'ai dit tout à l'heure, hein, et ça a été le cas pendant quasiment 10 siècles, l'Église a totalement dominé l'État. Et dans les liens entre l'Église et l'État, on peut envisager plusieurs variantes, mais pendant des siècles et des siècles, l'Église a totalement dominé l'État. Et je pense que c'était très problématique parce que ça a amené de la confusion entre ceux qui appartiennent au royaume de Dieu et ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est réparti parmi les nations. On est sous des autorités qui n'appartiennent pas à Dieu. Et à partir du moment où on a un État qui se proclame un État chrétien, ça signifie que tous les citoyens sont chrétiens, alors que peut-être une bonne partie de ces citoyens ne sont pas chrétiens. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a de la confusion, parce qu'on n'arrive plus à identifier ceux qui appartiennent authentiquement et ceux qui n'appartiennent pas authentiquement au royaume de Dieu. Moi, j'ai vécu pendant quelques mois au Rwanda. Les statistiques au Rwanda dans les années 90, au début des années 90, c'était 100% de la population qui était chrétienne. Et pourtant, il y a eu le génocide. Donc, ça veut dire que théoriquement, ce sont des chrétiens qui ont commis le génocide. Alors moi, je crois pas que c'était des chrétiens. Je crois que c'est des gens qui n'appartenaient pas à Christ. Mais on a là un exemple d'une nation qui s'identifiait dans son ensemble au christianisme. Et je crois que ça, c'est une erreur parce que ça met de la confusion. On n'identifie plus ceux qui appartiennent réellement, authentiquement au peuple de Dieu. Donc, je crois qu'on devrait éviter d'avoir une église qui domine l'État. Troisième point d'application, je crois, et on en a parlé tout à l'heure dans les applications, je crois que les chrétiens individuellement peuvent influencer positivement la société, y compris dans les sphères de la politique, mais aussi dans les autres sphères, hein, les sphères de l'enseignement, dans les arts, dans les sciences, etc. Je crois que les chrétiens ont ce rôle à titre individuel d'honorer Dieu et de promouvoir le bien dans les nations dans lesquelles nous sommes. Un petit peu à l'exemple de Daniel, qui était dans une nation étrangère, et pourtant il n'a pas tout fait pour saboter cette nation. Au contraire, il a œuvré sous plusieurs empereurs différents, dans deux empires différents, l'empire babylonien puis dans l'empire médo-perse. Il a œuvré pour le bien de ces empires et de ces empereurs. Et il l'a fait bien, si bien qu'il a été souvent placé dans des positions élevées. Donc je crois que les chrétiens individuellement devraient faire ce qu'ils peuvent pour influencer positivement la société. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que l'Église et l'État devraient rester des entités qui sont distinctes et qui ont leur sphère respective. Quatrième remarque, alors c'est assez évident, mais c'est que les chrétiens, de manière générale, doivent obéir aux autorités. Ça signifie que, autant qu'on le puisse, on devrait faire nos efforts pour être de bons citoyens. On devrait vraiment prendre soin pour autant que c'est juste, de faire ce que l'État, nos États, nous imposent et ne pas chercher des excuses pour faire différemment. Je pense, à titre personnel, dans les années passées, j'ai souvent, par exemple, téléchargé illégalement des logiciels ou des vidéos. Et c'est quelque chose, voilà, que par la suite, je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste. Ça ne veut pas dire que le système de rémunération des films, etc., il est vraiment juste. Mais en fait, je me suis rendu compte, parce que moi, je critiquais un petit peu le système de rémunération des producteurs de films ou de logiciels. Et je trouvais que bon, voilà, c'est des gens qui gagnaient trop d'argent. Et du coup, pour me venger, je me disais, bah, j'ai le droit de télécharger des choses illégalement. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas bien. Parce que moi, je me sers de quelque chose comme d'une excuse pour faire ce qui n'est pas juste. Mais en fait, même si le système en soi, il est peut-être critiquable, il n'y a rien d'injuste dans le système. Et du coup, voilà, j'ai dû me repentir de ça et puis revenir en arrière par rapport à ça. Cinquième application qui nuance un peu celle d'avant. Donc, les chrétiens doivent obéir, mais cinquième, les chrétiens doivent désobéir lorsqu'on leur demande de désobéir à Dieu. Et là, c'est vrai, il y a des positions qui sont pas faciles à tenir. Je pense par exemple à voilà quelqu'un qui les médecins. ont souvent à faire des choses qui sont complexes. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des médecins qui sont venus me poser des questions sur des situations éthiques pointues, que moi, je comprenais même pas des fois, ou même que j'avais pas vraiment que j'avais pas vraiment bien appréhendé. Et du coup, on a dû un petit peu avancer ensemble. Et du coup, je pense qu'on doit être prêt, on doit être courageux. Et il faut pas se voiler la face. Le monde est opposé à Dieu. Et on le sent aussi que, en tout cas en Occident, le monde est en train de. Enfin, l'opposition grandit. Et du coup, ça va être toujours plus difficile d'être chrétien. Donc, il faut être prêt. Il faut qu'on se tienne les coudes et qu'on soit armé et prêt à désobéir quand on nous demandera de désobéir à Dieu. Sixième remarque. Je le dis, même si en fait l'État ne va pas m'écouter, mais je crois quand même que, c'est mon sixième point, l'État ne devrait pas essayer de dominer l'Église dans les sphères qui lui sont propres. Malheureusement, il y a une tentative de l'État, et je crois que c'est un peu malheureusement un cycle qui revient assez régulièrement dans l'histoire du monde, c'est que l'État veut tout dominer. Il veut tout contrôler, savoir exactement tout ce qui se passe un petit peu partout, jusqu'à dans nos sphères privées, jusqu'à même peut-être des fois dans nos pensées, dans nos intentions. Et je crois qu'il faut qu'on se protège en tant qu'Église et qu'on considère que même si on va œuvrer pour le bien, mais je crois qu'il faut qu'on évite que l'État essaye de dominer dans les sphères qui sont propres à l'Église. Si l'État commence à nous imposer certaines règles, par exemple sur la prédication ou sur les baptêmes ou des choses comme ça, où il nous oblige d'accepter certaines personnes comme membres de nos églises, etc., je crois qu'on devrait vraiment s'opposer à ça. Je crois qu'on doit être sensible à cela. J'ai dit dans les sphères qui lui sont propres. Je crois que, par exemple, pendant la période de la pandémie de Covid, c'était quelque chose qui était extrêmement. On était sur la corde raide et chaque État a pu prendre des décisions qui étaient plus ou moins en limite avec les sphères qui lui sont propres. Et puis qui parfois pouvait empiéter un petit peu sur la vie de l'Église. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le débat, parce que je sais que c'est un sujet qui est houleux, mais ça veut dire que je crois que notre réflexe en tant qu'Église, c'est qu'on devrait obéir à l'État tant que l'État légifère sur des sphères qui lui sont propres. Je veux dire, si l'État nous impose des règles, par exemple, sur la tenue de nos locaux, des règles de sécurité, d'incendie, etc. Je crois que là, on n'est pas dans des sphères qui nous sont propres. Et du coup, je crois qu'on devrait obéir à ce genre de règles-là. Par contre, s'ils nous commencent à nous imposer des choses dans des sphères qui sont propres à l'Église, alors là, on devrait prendre soin de ne pas se laisser dominer par l'État parce que Dieu veut que son Église puisse grandir. Et puis finalement, la septième et dernière application que je voulais laisser, c'est que les chrétiens doivent se préparer à la persécution. On a été persécutés à travers l'histoire. Et je sais qu'en Occident, actuellement, on a l'impression que la persécution, ça n'existe pas. Mais en fait, la persécution, ça a été plutôt la norme. Et nous vivons plutôt dans l'exception que dans la norme aujourd'hui. Vous pouvez lire un livre que moi, j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Le Livre des Martyrs de John Fox. C'est un livre, je pense, qui a été écrit au XVIIe siècle. Et qui nous montre qu'en fait, à toutes les époques, les chrétiens authentiques ont été persécutés. Ils ont été persécutés parce que le monde déteste Dieu. Et du coup, on doit s'attendre à être persécuté. On doit s'attendre à obéir à Romains 13, à continuer d'être soumis à l'État, mais dans un contexte de persécution. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en tout cas en Europe, on ne vit pas une situation de persécution majeure, mais on vit quand même des difficultés. Et on doit être prêt à cela. On doit être prêt à vivre de manière inconfortable et à obéir, à respecter, à honorer nos États malgré tout. Voilà, je vais m'arrêter là. sur ce texte et je vais rendre la parole à Nathanaël pour un temps de questions. J'imagine que là, il y aura peut-être plusieurs questions qui sont venues. On a un peu de temps du coup pour répondre à des questions.
Oui, merci Jonathan. Effectivement, quelques questions, dont une contextuelle par rapport à cette épître de Paul aux Romains, notamment par rapport à ce chapitre sur l'autorité et la soumission aux autorités. Et voilà la question. Est-ce que quand ce texte a été écrit par Paul, les chrétiens subissaient déjà la persécution? Point d'interrogation.
Ouais, c'est une excellente question. J'aurais plutôt tendance à dire que non. En tout cas, à ce moment-là, on n'est pas encore dans les grosses phases de persécution. Il pouvait y avoir un petit peu des embêtements ici et là. On le voit par exemple à Éphèse. On le voit à Éphèse, c'est les vendeurs dans Actes 19, là, c'est les vendeurs de figurines du temple d'Artémis, là, qui ou de Diane, qui se rebellent contre Paul, et Paul est obligé de quitter la ville. Donc il est persécuté, pas par les autorités, mais par les artisans. Il y a aussi le cas, par exemple, à Thessalonique, où Paul est aussi persécuté, non pas par les autorités, mais par les responsables juifs. Donc il y avait comme ça des petites phases de persécution, mais globalement, et je pense que c'est aussi une des raisons qui explique ce texte qui est très massivement positif sur les autorités. Les autorités romaines, bon, elles étaient imparfaites, mais elles étaient quand même assez bonnes, globalement, le droit romain était quand même un droit qui était plutôt juste, ce qui rend d'ailleurs, entre parenthèses, hein, le procès de Jésus complètement incompréhensible, parce qu'on se dit, mais comment les autorités romaines, avec tout leur système de loi, ils ont pu se laisser corrompre, et comment Ponce Pilate a pu se laisser corrompre par le peuple, etc. La réponse, c'est simplement, c'est parce que c'est Dieu, en fait, qui a voulu que son fils meure sur cette croix pour nos péchés. Bref, en tout cas, les autorités romaines étaient quand même relativement justes, et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi Paul met pas vraiment ici de bémol ou justement de clause d'exception par rapport à la question de l'autorité.
Ouais, puis je pense à quelque chose quand Paul écrit cette lettre. On doit être en 57 ou 58
C'est ça.
après Jésus-Christ. Sauf erreur, Néron commence à régner à Rome, où il a déjà juste commencé.
Ouais, c'est une bonne question. J'avoue, là, je sais pas exactement.
Je crois que c'est 54, le début du règne de Néron, mais bon, peut-être qu'il n'était pas encore trop fou au début.
Ouais. En tout cas, ce que j'ai pu lire par rapport à ça dans un commentaire, j'ai consulté quelques commentaires, et ce que j'ai lu dans un des commentaires, c'est que a priori, jusqu'à ce moment, le commentateur disait que jusqu'à ce moment-là, en tout cas, il n'y avait pas encore une grosse persécution. Et lui, il émettait l'hypothèse justement que c'était pour ça que Paul n'était pas très, enfin, mettait pas trop de bémol par rapport à ça. Après, d'une manière générale, je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention à quand on importe l'histoire. Enfin, moi, je crois fermement à la notion de la suffisance des Écritures. Parce que le problème, c'est que quand on a besoin de l'histoire pour expliquer la Bible, l'histoire, elle est utile. Mais quand on a besoin de l'histoire, ça veut dire que si on n'avait plus les historiens, on serait démunis par rapport à la Bible. Et du coup, je crois qu'il faut faire attention, il faut essayer de voir la Bible par rapport à elle-même. De nouveau, la Bible, l'histoire, elle est utile, mais je pense que ça n'enlève en rien, enfin, le contexte historique n'enlève en rien au fait que Paul, il nous donne ces commandements-là et on doit les appliquer et les vivre nous aussi aujourd'hui.
Par rapport à cette question, excusez-moi d'intervenir, mais on peut se rappeler que Paul était le premier persécuteur de l'Église.
Absolument, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et
Merci.
je crois que de nouveau, il faut. Enfin, je pense que c'est un absolu dans un sens. On doit obéir aux autorités qui nous gouvernent. Et ça reste vrai, que ce soit en contexte de persécution ou en contexte ou dans un contexte favorable comme celui dans lequel on vit aujourd'hui.
Merci. pour ces commentaires. Je propose qu'on s'arrête là sur ce fameux serviteur esclave du verset 4. Donc traduit par serviteur dans la version second, sauf erreur. Je pense que ça doit être esclave dans Darby. J'ai pas contrôlé. C'est aussi serviteur. Quel est le sens? Non, c'est aussi serviteur. Quel est le sens de ce mot? J'ai pas regardé si c'était doulos ou
Bon,
quoi.
donc c'est en grec, c'est diakonos, je pense. Donc c'est vraiment pas vraiment le doulos, hein, la notion d'esclave. C'est vraiment plutôt la notion de serviteur, comme ça ressemble un peu au terme de diacre. Hein, ça c'est la même. C'est ce terme-là qui est utilisé. Donc c'est ceux qui servent. En fait, c'est. Enfin, j'avoue, je sais pas, il faudrait préciser la question. En fait, c'est ça. Ce que Paul nous dit, c'est que les magistrats sont au service de Dieu. Ils sont établis par Dieu, y compris dans les cas où eux-mêmes sont opposés à Dieu. Et j'ai expliqué que voilà, c'était le cas de Nebuchadnezzar, par exemple. Ou Nebuchadnezzar, c'est le cas d'autres. Hein. En fait, ils sont établis par Dieu et ça signifie que nos autorités aussi, elles n'échappent pas au plan de Dieu, à la providence de Dieu. Ça n'empêche pas qu'elles puissent être mal intentionnées et faire du mal à l'Église, mais malgré tout, on est rassuré par le fait que elles n'échappent pas à la volonté de Dieu et elles servent le plan d'ensemble de Dieu, même si peut-être que sur le plan local et dans notre période de temps, on ne comprend pas pourquoi Dieu agit de cette façon-là.
Merci. Alors une question dans la réponse, je vais te la laisser. Le magistrat est serviteur de Dieu. Tu viens de l'exprimer et l'expliquer. Et puis on a un frère qui se pose la question, mais est-ce qu'il sera sauvé puisqu'il est serviteur de Dieu s'il ne croit pas en Jésus-Christ?
Ouais, alors là, la réponse, elle est non. Il y a pas de salut pour personne. Il y a de salut que pour ceux qui confessent Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ. Et y compris dans l'Ancien Testament, en fait, les hommes et les femmes qui étaient sauvés l'étaient par anticipation parce qu'ils espéraient en la venue du Messie. Donc, il n'y a pas de salut en dehors de Christ. C'est pas possible. C'est pas une fonction qui nous sauve. C'est pas l'excellence de notre service pour l'humanité. C'est pas le fait d'avoir voilà servi dans de magnifiques œuvres humanitaires. Tout ça, c'est des choses qui sont bonnes, qui appartiennent à la providence, à ce que Dieu a voulu. Mais malgré tout, c'est pas quelque chose qui sauve. Parce qu'on n'est jamais capable de fournir un standard suffisamment élevé vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Notre seule manière d'être sauvé, c'est de placer notre confiance en Jésus-Christ, qui prend sur lui nos péchés, qui nous donne sa justice. Et sur cette base-là, on peut entrer dans la présence de Dieu. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre.
Merci pour ce rappel de l'évangile, Jonathan. Et puis, on a une petite remarque aussi là qui est très intéressante, qui nous rappelle que la grande persécution à Rome, c'était en 64 après Jésus-Christ, après l'incendie de Rome. Donc,
Ah voilà.
effectivement, au moment de la rédaction, encore un peu avant
Encore un
toute
petit peu
cette
avant.
folie-là.
Ouais.
Donc voilà, avec ça, on a terminé les quelques questions qui ont été posées.
OK.
Merci beaucoup, Jonathan. Puis je vais laisser la place à Jacques pour la conclusion.
Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette présentation. Merci beaucoup, Jonathan, pour tout ce qui a été expliqué, et je crois que nous nous trouvons tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à ces questions, et peut-être tout particulièrement dans une société qui se déchristianise à grande vitesse dans nos pays, eh bien, on a besoin de ces repères pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour la suite de cette étude de l'Épître aux Romains, et ce sera Frédéric Jean qui présentera le chapitre 13. À partir du verset 8, je vais encore terminer par la prière. Et notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta parole nous aide à agir selon ta volonté dans les situations où nous pouvons nous trouver. Nous voulons te demander que tu nous donnes du discernement, spécialement si nous nous trouvons dans des situations difficiles où ce n'est pas toujours évident de savoir comment agir. Nous te remercions parce que tu nous as donné ton esprit et ta parole pour nous guider. Nous nous remettons à toi pour la fin de cette soirée, pour cette semaine. Veuille nous garder et nous bénir dans nos différentes activités. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Voilà, bonne soirée à chacun. Merci encore et puis à bientôt.